La revue de presse, c'est maintenant avec Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Pierre, bonjour Patricia.
Bonjour Frédéric.
Et bonjour à tous. Elle s'appelle Karine. Nous n'avons pas son nom de famille. Et c'est Le Parisien qui nous raconte son histoire. Célibataire, sans enfant, Karine s'occupe depuis une douzaine d'années de sa mère. Atteinte de démence vasculaire, celle-ci a 84 ans, elle ne sait plus parler, ne comprend plus les mots, ne reconnaît plus sa fille, avec qui elle a passé tout le confinement, 55 jours ensemble, 24 heures sur 24, tout en continuant à travailler pour Karine, enfin en travaillant de chez elle, en télétravaillant. Et le télétravail avec une personne démente, à ses côtés, c'est très dur, confie-t-elle. Karine ne pouvait pas s'isoler dans l'appartement, sans un moment de répit, sans un moment à elle. Et je n'ai plus de patience, dit-elle. Je me rends compte que je lui parle de plus en plus mal. Un constat relevé aussi par un collectif de parents d'enfants handicapés qui a réalisé une enquête sur le sujet auprès de 500 familles concernées. Près d'un parent sur trois reconnaît, à cause de la fatigue, avoir eu pendant le confinement au moins une parole ou un geste envers son enfant handicapé qu'il regrette. Parents d'enfants handicapés, enfants de parents dépendants. 8 à 11 millions de Français s'occupent d'un proche malade. Souvent, ils ont été en première ligne durant la crise sanitaire et beaucoup ont eu l'impression d'avoir été abandonnés par les pouvoirs publics parce que les soignants qui les aidaient au quotidien ont été réquisitionnés pour renforcer les équipes dans les hôpitaux. Dans le journal, certains de ces proches aidants racontent qu'ils y ont finalement laissé leur santé. Ils se disent épuisés. Karine est épuisée.
Et de son côté, le Figaro nous parle de Camille.
Et oui, les journaux ne nous donnent pas toujours les patronymes des personnes dont ils nous racontent les histoires. Là encore, il est question du confinement, mais sous un angle résolument positif. Camille a 21 ans, elle est étudiante en licence de droit et avant que surgisse la pandémie, elle avait prévu de partir 6 mois aux États-Unis pour parfaire son anglais dans un cabinet de conseil en affaires publiques. À la place, elle a décidé de s'investir à l'Ordre de Malte et pendant 8 semaines, elle a distribué des colis alimentaires aux sans-abri à Paris. C'est un phénomène qu'ont constaté beaucoup d'associations. En France, des milliers de jeunes ont choisi de consacrer cette période à aider les autres. Comme si le Covid-19 avait provoqué un déclic, témoigne un responsable de l'Ordre de Malte. Cette jeunesse, souvent pressée dans sa bulle, a vu sa vie brutalement interrompue. Elle a ouvert les yeux sur la misère dans la rue. Et pour certains, c'était surtout l'occasion de sortir des affres, de l'ennui, témoignage de Basile, tiens, un prénom, 18 ans. Moi, je me suis dit, t'es confiné, tu glandes, tu te lèves à midi et tu prends ton petit-déj à 14h, c'est le moment d'agir. Et donc, il a agi, reste à savoir combien parmi ses étudiants vont continuer ses activités de bénévolat. Ici donc de jeunes bénévoles et là des proches aidants. Un conseil de lecture, le mensuel Sciences Humaines, dont le dernier numéro est consacré au sujet « S'entraider est-il naturel ?» questionne le magazine, dossier sur l'altruisme et sur la solidarité, sur l'empathie, la bienveillance. Dire ces mots-là fait déjà du bien.
Frédéric, c'est encore un prénom qui s'affiche à la une de l'Est Éclair ce matin.
Zacharia. Avec cette banderole, justice pour Zacharia. Justice pour tous, pas de paix sans justice. Zacharia Touré est décédé le 21 février 2019 au service de réanimation de l'hôpital de Troyes. Il avait 21 ans. Depuis quelques jours, il était incarcéré à la maison d'arrêt de la ville. Il a été pris d'une crise convulsive majeure à la maison d'arrêt, puis il en a fait une deuxième à l'hôpital où l'ont conduit les agents de l'administration pénitentiaire. Il se débat comme dans un état second, alors il est entravé au poignet et ses menottes sont fixées à une ceinture, après quoi, pour le calmer, on lui administre un traitement de cheval à base de neuroleptiques et de benzodiazépines. Mais comme il ne se calme pas, on alerte des fonctionnaires de police qui, par 3 fois, usent alors de leur taser. C'est le lendemain que Zacharia décède et depuis, sa famille réclame que toute la lumière soit faite sur sa mort. Hier soir, à 3, quelques 500 personnes ont arpenté les rues pour lui rendre hommage et réclamer la vérité, rapporte l'Est Éclair, précisant que cette manifestation survient dans un contexte mondial de défiance face aux forces de l'ordre.
Une défiance que l'on retrouve à la une de nombreux journaux.
Avec d'un côté la colère des manifestants qui défileront de nouveau ce samedi pour dénoncer les violences policières et de l'autre, la colère des policiers qui ont manifesté hier afin de dénoncer ce climat de défiance qui pèse sur leur profession avec un geste symbolique lors des rassemblements. La police jette les menottes, titre La République du Centre, tandis que Mini Libre évoque la colère bleue des policiers. Colère contre Castaner, précise Nord Littoral. Les policiers prennent leur ministre en grippe, confirme Le Progrès, d'où ce titre à la une du Télégramme. Castaner sous pression. Pour Le Parisien, il est plus fragilisé que jamais. Pour Libération, il est devenu le premier flip de France, Libération, qui propose un entretien croisé de deux actrices, Aïssa Maïga et Adèle Haenel, engagées contre les discriminations raciales, sexistes et sociales. Toutes les deux marcheront aujourd'hui aux côtés du comité Adama Traoré, dont le nom est aujourd'hui scandé dans les manifestations contre les violences policières et le racisme dans le monde, à paraître cet après-midi. Mais l'article est déjà en ligne, vous découvrirez les zones d'ombre de cette affaire devenue un symbole. Le récit de l'interpellation du jeune homme à Beaumont-sur-Oise le 19 juillet 2016. Les experts médicaux se contredisent sur les causes de sa mort. Et le journal met au jour les incohérences d'un témoin clé pour l'enquête. Sur Mediapart, autre enquête. Une plongée dans la fabrique de l'impunité, c'est le titre de l'article. Pendant 6 mois, 2 journalistes ont épluché des milliers de pages et analysé un par un 65 dossiers de l'IGPN. Une analyse qui met au jour des techniques récurrentes permettant à la police des polices de blanchir massivement les forces de l'ordre, nous dit Mediapart. Enfin, dernier prénom, Djalega. C'est à lire dans Le Parisien, l'histoire d'un incendie qui s'est déclaré dans le 14e arrondissement de Paris. Djalega est agent d'entretien, demandeur d'asile, et il n'a pas hésité à porter secours à une vieille dame alors que le feu faisait rage. J'ai retiré mon t-shirt pour éteindre les flammes dans ses cheveux. Aujourd'hui, les habitants de l'immeuble demandent sa régularisation. La solidarité, l'entraide, disions-nous.
C'était la revue de presse avec Frédéric Pommier.